Elsa Triolet est présente pour moi dans ses livres et dans les miens de façon double. C'est une femme réelle et non pas une image, une façon de parler. Et si elle n'était pas l'auteur de ces livres, elle ne serait pas non plus la femme qui est dans les miens. Ça n'est pas là non plus, il ne s'agit pas ici d'une vue littéraire des choses. Mais moi qui me fais une très haute idée de ce que c'est que l'expression, ce n'est pas un hasard que c'est justement quelqu'un qui a maîtrisé à un pareil point l'expression qui a tenu dans ma vie la place qui a tenu Elsa.
Ce qui m'influence, surtout quand j'écris, par rapport à Aragon, c'est que, vous savez, on écrit après tout en pensant à quelqu'un, au jugement de quelqu'un. Et évidemment, le jugement que je crains et la personne pour laquelle j'écris, c'est Aragon. Quand j'écris, et avant même de commencer quelque chose, je me dis qu'est-ce qu'il va en penser. Et je m'imagine simplement l'expression sur son visage. Est-ce qu'il va dire oui ou est-ce qu'il pensera qu'il aurait mieux fait de parler d'autre chose? Même la façon de m'exprimer, enfin, c'est toujours un petit peu une lettre à Aragon que j'écris.
L'humeur vagabonde sur France Inter.
Parmi les couples mythiques de la littérature française, celui que formèrent, 40 années durant, Elsa Triolet et Louis Aragon brille tout particulièrement, car son immortalité est assurée par la flamboyance et l'immense popularité des poèmes de celui qui signa Le Fou d'Elsa. Mais au contraire du duo Sartre-Beauvoir, nulle égalité de célébrité et de traitement n'a bénéficié à Elsa Triolet, toujours largement éclipsée par sa prima donna de mari, comme elle le désigna parfois. Pourtant, première femme à recevoir le prix Goncourt en 1944, celle-ci fut une écrivaine talentueuse, féministe en avance sur son temps, dotée d'un solide humour et qui mérite amplement qu'on la lise pour elle-même. Avec la complicité d'Ariane Ascaride, Didier Besas a mis en scène et interprète des textes du couple, certains très connus, d'autres plus étonnants, pour qui s'est arrêté à la surface des choses. Son spectacle « Il y aura la jeunesse d'aimer » est à voir jusqu'au 24 novembre au Lucernaire à Paris. L'occasion de réentendre les poèmes fameux qui nous trottent toujours dans la tête et de découvrir des extraits des livres des deux écrivains ainsi que certaines lettres échangées vers la fin de leur vie à deux. Un moment de grâce que nous offrent deux comédiens que l'on sent aussi heureux dans l'exercice que le sont à l'évidence les spectateurs. Bonsoir Didier Besas.
Bonsoir Kathleen Eva.
Ce spectacle est une reprise, il a commencé et eu une grande vie l'année dernière. Il reprend parce que les salles sont heureuses, j'ai pu le constater. Et pourtant, alors par rapport à ce qu'on nous montre souvent au théâtre aujourd'hui, plein de bruit et de fureur, de la vidéo partout, des réécritures, j'allais dire c'est un spectacle à l'ancienne, mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que tout est donné à l'art des acteurs et à la qualité des textes. Vous aviez envie d'un temps comme cela pour faire entendre ce qui vous anime au fond, Didier Besas, c'est-à-dire le texte.
Oui, bien sûr, j'avais envie de ça. Et puis, il aurait été, à mon avis, stupide d'ajouter des images à celles que créent Elsa et Louis avec leurs textes. Les vraies images, ce sont eux qui les fabriquent et nous, nous sommes là pour les transmettre.
Alors, je disais en présentant le spectacle, là, il y a une seconde, qu'il y a ce couple légendaire. Au fond, c'est une légende qui a un peu écrasé la réalité autre que celle des poèmes d'Aragon et la réalité d'Elsa Triolet. C'est vrai que la politique du couple, le côté stalinien, le côté membre du Parti communiste, ça au fond posé une image que vous déconstruisez, vous donnez à entendre, tous les deux, Ariane Ascaride et vous, une réalité différente. Laquelle ?
Bien, moi, ce qui m'a guidé dans la conception du montage, c'est pas du tout leur engagement politique, encore qu'ils soient présents souvent dans les textes, en filigrane. C'est plutôt comment parler du désir amoureux, de la vie à deux, de la lassitude de cette vie à deux, parfois, du couple, et puis de la séparation éternelle, puisque Elsa est morte avant Aragon, et il en a été bouleversé. Enfin, il s'en est jamais remis, à vrai dire. Voilà, c'est ça le fil directeur de ce spectacle.
Et je le disais aussi, Ariane Ascaride n'est pas avec nous ce soir, mais elle va y être par sa voix, qu'on entendra avec vous tout à l'heure dans les extraits de la pièce, Didier Besas. Mais il y a la personnalité d'Elsa Triolet qui a été tout à fait écrasée par Aragon, y compris quand Aragon disait qu'il n'était qu'une ombre au pied d'Elsa.
Aragon dit toujours qu'il est une ombre à vos pieds.
Ah, il a tort. Il me fait du tort. Toujours il se diminue par rapport à moi. Ça fâche les gens. Et ils ont raison. Je sais que j'ai beaucoup fait pour Aragon, pas exprès, ça s'est fait comme ça. Parce que nous sommes faits l'un pour l'autre. J'ai beaucoup influencé ses écrits. Il m'en est très reconnaissant, je crois. Parce que c'est allé, au bout du compte, dans le sens dans lequel il voulait que ça aille. Et qu'il y avait un moment où il avait eu beaucoup de mal à se trouver, à se retrouver. Il avait complètement perdu son chemin en tant qu'écrivain. Et de m'avoir à côté de lui, je le dis sans fausse modestie, a probablement été comme un chemin balisé. Et il veut toujours me remercier pour ça. Il n'arrête pas de me remercier.
Didier Besas, on oui. entend dans cet extrait l'humour d'Elsa, mais aussi cette blessure, quand elle dit « à force de répéter qu'il n'est qu'à mes pieds, il me fait du tort oui. ». Et c'est vrai qu'en vous écoutant dans le choix des textes que vous avez opérés, notamment des textes d'Elsa Triolet, on sent qu'il y a quelque chose qui nous manque. On s'est laissé aveugler par le panorama dressé avec talent par Aragon de leur couple, et on n'est pas allé chercher plus loin. Et au fond, Elsa Triolet mérite qu'on aille lire, relire pour certains, mais lire ces textes quand on ne les a pas lus.
Oui, certainement. Et d'ailleurs, le premier montage donnait beaucoup moins de place aux œuvres d'Elsa. C'est moi, en retravaillant et en essayant justement de traquer cette idée du couple qui est réapprivoisée des textes d'Elsa Triolet qu'on dit soit Ariane, soit moi, quoi. Voilà. Mais on l'entendait, effectivement, il lui fait du tort en disant ça. En même temps, on sent bien qu'ils sont faits l'un pour l'autre, parce qu'elle revendique complètement le rôle, non pas de conseillère, mais de confidente dans l'œuvre, enfin dans la fabrication de l'œuvre elle-même. Et quand on a entendu les premiers extraits avant, on se rend compte que Aragon joue le même rôle.
Et surtout, on sait, ou on ne sait pas, et on le découvre en tout cas, que Elsa Triolet était la première lectrice des textes d'Aragon, qu'il tenait beaucoup à ce qu'elle donne son avis. Et dans d'autres extraits, d'autres archives qui ne seront pas dans cette émission, elle dit en fait, je lui conseillais souvent de mettre moins de cuivre, d'être plus simple dans son expression. Elle trouvait que Aragon avait tendance, dans certains, notamment de ses poèmes, à pratiquer un peu l'enflure romantique. Et Elsa était plus précise sur l'écriture.
Mais je suis d'accord avec vous. Et d'ailleurs, ça fait partie, ça, du projet du spectacle. Parce que, dans les yeux d'Elsa, Aragon, effectivement, s'emporte, si j'ose dire, ou laisse sa fructuosité, laisse partir sur les mots. En même temps, c'est un inventeur d'images verbales absolument inouïes, quoi. Et elle lui dit, c'est un peu trop. Elle lui dit « Tu devrais écrire beaucoup plus simplement ».
Alors, Louis Aragon a été son propre historiographe. Il a éminemment romancer leur histoire d'amour, qui était une magnifique histoire d'amour. On sait qu'il l'a construit avec sa plume le 6 novembre 1928 à 5h30 du soir au bar de la Coupole, a commencé leur histoire d'amour. Et il a très vite convaincu Elsa de venir vivre avec lui, de l'épouser. Mais dans votre spectacle, Didier Besace, on entend un extrait d'un texte qu'elle a écrit sur justement ses doutes, sa peur aussi au moment de sauter le pas.
Évidemment, les choses ont beaucoup changé. Nous vivons ensemble. Nous quittons ensemble mon hôtel Istria pour un atelier. Chose incroyable dans ma vie. Nous avons eu de beaux jours, amoureux. Mais mon humaine ruse invente des moyens d'être malheureuse. Je ne crois à rien, je doute de tout, je suspecte tout. Mais qu'est-ce qui m'attend si je m'en vais? L'ennui est absolu. Un autre garçon? Je n'en ai pas le courage. Faire l'amour, sans plus, l'horreur des gestes répétitifs, dépersonnalisés. Que faire? Être toujours à deux. Je n'ose même plus penser quand il est près de moi, de crainte qu'il ne devine ce que je pense. Bref, il m'empêche de penser. Et quelle que soit la force, la façon dont il m'aime, ce n'est pas assez, ce n'est pas comme je voudrais. Et que va-t-il arriver maintenant? La vie m'a été donnée en 3 dimensions. Je gage qu'il serait au-dessus de mes forces de revenir à l'ancienne. Mais m'adapterai-je à la nouvelle? Je rêvais d'un moyen d'équilibrer ma vie, je l'ai, et ma vie d'antan me manque, celle qui m'emportait, je ne sais comment, même pas dans la vie, mais simplement dans l'espace.
On entend dans cet extrait de votre spectacle, Didier Besace, à quel point Ariane Ascaride, avec son grand talent, s'écoulait admirablement dans le rôle d'Elsa Triolet, qui doit aussi, pour elle, qui a épousé et qui vit avec un artiste, un réalisateur de cinéma, qui doit raconter aussi un peu de ces choses que les femmes pensent parfois quand elles vivent au bras d'un homme important. Et on sent la douleur d'Elsa Triolet, sa force, son humour. Elle est d'une modernité incroyable.
Ah oui. En ce qui concerne, je veux dire le destin féminin, elle est précurseur, c'est une évidence quoi. Et on sent bien dans l'extrait qu'on vient d'entendre qu'il y a à la fois la recherche d'une stabilité amoureuse, elle cherche un mari, voilà, elle l'a trouvé, il est amoureux d'elle, et en même temps des inquiétudes profondes sur ce que va être la vie à deux. Et d'ailleurs, il y aura La Jeunesse d'aimer, le montage de texte que j'ai réalisé. Il y a une lettre d'Elsa à Louis où elle est extrêmement sévère avec lui. Où elle lui dit, mais en gros et schématiquement, il est impossible de vivre avec toi.
Mais au fond, ce sont des inquiétudes de créatrice. C'est-à-dire que c'est une femme qui se pense en écrivain. Elle va d'ailleurs avoir le Goncourt, première femme à avoir le Goncourt en 1944, et elle se dit, mais vivre avec un écrivain aussi énorme que celui-ci, qu'est-ce qui va me rester à moi pour écrire?
Voilà, exactement. Où est ma place? Où est ma place d'artiste? Pas ma place de femme, parce que ça, bon, elle l'avait. Même pas ma... Alors bon, il faut faire attention aux mots qu'on prononce, parce que je pense qu'Elsa n'est pas la muse d'Aragon. Mais... elle est cette confidente qui est la première lectrice de ces textes. Donc, elle se pose à la fois la question d'exister par elle-même, de créer, et en même temps d'être compagne de ce grand poète, quoi, qui l'écrase un peu, il faut le dire.
Alors, ce qui est intéressant dans ce spectacle, il y aura La Jeunesse d'aimer, Didier Besace, c'est que vous avez résisté à ce qui semblait évident, c'est-à-dire à nous balancer, au fond, les grands poèmes, ceux qui ont été mis en musique, qui ont été chantés, ceux qu'on a appris à l'école, ces grands poèmes par lesquels Aragon est devenu immortel réellement, et vous nous donnez au fond de larges extraits de la prose, des romans, des lettres, on y viendra peut-être plus tard, et vous parlez évidemment, il y a un extrait d'Aurélien, le grand texte d'Aragon, et un texte beaucoup plus surprenant qui est sorti de quelque chose qui s'appelle « Servitude et grandeur des Français ». Ça s'appelle « Les bons voisins ». C'est paru en 1945. Avant d'en parler avec vous, on écoute un extrait.
Alors, qu'est-ce que tu penses de la politique du président Laval ?
Ce que je pense de la... Oui ! Il paraît qu'il aurait fallu répondre sans réfléchir, parce que réfléchir prouvait que j'en pensais pique-pendre. Et moi, je voulais juste dire que je pensais rien de la politique du président Laval, pas plus que de la politique de tout autre président. Il y a des gens qui s'occupent de ces choses-là, pas moi. Ouais, voyez-vous ça. Il paraît que vous écoutez les radios étrangères. Moi, dis-je dans l'innocence de mon cœur, mais je n'écoute même pas la radio nationale. Ah. Ah, vous n'écoutez pas la radio nationale.
Pfeffer.
Oui, patron.
Monsieur Alfront se vantait de ce qu'il n'écoute pas la radio nationale. Mais, non, il n'y a pas de mais. Et pourquoi n'écoutez-vous pas la radio nationale et écoutez-vous les radios étrangères? Vous les trouvez plus intéressantes, mieux renseignées, peut-être? Mieux faites?
Mais non, mais avec quoi voulez-vous que je l'écoute, la radio nationale?
Avec quoi? Faites pas l'imbécile, mon gaillard, avec quoi? Bah, tu hurles pas avec mes fesses, peut-être, avec votre poste.
Mais j'ai pas de fesses. Ah, ça m'était parti comme ça, Pauline. Moi, je voulais dire, j'ai pas de poste.
Dis donc, le petit vieux, vous faites de l'esprit, là? Si je vous prenais au mot, moi, si j'allais y voir si vous n'avez pas de fesses. Bon, alors, si vous n'avez pas de poste, c'est à voir, ça, si vous n'avez pas de poste. Hein. Et comment, si vous n'avez pas de poste, écoutez-vous les radios étrangères?
Eh bien, justement, on vous le demande.
Voilà, Didier Besas. Très surprenant, un texte signé Louis Aragon, paru en 1945. C'est une nouvelle, ça s'appelle Les bons voisins, et ça parle d'un couple chez qui débarque la police pendant l'occupation. C'est une erreur, mais c'est un texte qu'on aurait vraiment du mal à attribuer à Aragon. C'est très étonnant.
Ah oui, mais je suis d'accord avec vous. Ce qu'on découvre, et on l'a bien entendu en écoutant l'extrait, c'est la verve comique d'Aragon, qu'on ne connaît pas. Et moi, j'étais tellement étonné et séduit par cette manière d'écrire une fable populaire que j'ai tenu à ce que ce texte soit vraiment dans le montage.
Et d'ailleurs, la salle se régale parce qu'elle est écroulée de rire et elle n'en revient pas d'entendre ça.
Oui, parce que Aragon, dans ce texte-là, Les bons voisins créent des personnages. Il y a Pauline qui ne manque pas de vigueur, d'insolence. Il y a Robert qui est plutôt timoré. Et puis, il y a ces flics, notamment deux. Un gros qui, je le dis dans le texte, n'arrête pas d'aspirer de l'air entre les gencives pour se nettoyer les dents. Et puis, l'autre qui chuinche en parlant comme ça, et donc ça fait tout d'un coup une galerie de portraits, et c'est une petite pièce de théâtre.
Suffit-il donc que tu paraisses de l'air, que te fera attachant tes cheveux, ce geste touchant, que je renaisse et reconnaisse un monde habité par le chant, Elsa, mon amour, ma jeunesse. Eau forte et douce comme un vin, pareil au soleil des fenêtres, tu me rends la caresse d'être, tu me rends la soif et la faim. De connaître notre histoire jusqu'à la fin. Ces miracles que d'être ensemble, que la lumière sur ta joue, qu'autour de toi le vent se joue, toujours si je te vois, je tremble. Comme à son premier rendez-vous, un jeune homme qui me ressemble. Pour la première fois ta bouche, pour la première fois ta voix, d'une aile à la cime des bois, l'arbre frémit jusqu'à la souche. C'est toujours la première fois quand ta robe en passant me touche. Ma vie en vérité commence le jour où je t'ai rencontré, toi dans les bras on su barrer sa route atroce à ma démence. Et qui m'a montré la contrée, que la bonté seule ensemence. Tu vins au cœur du désarroi pour chasser les mauvaises fièvres, et j'ai flambé comme un genièvre à la Noël entre tes doigts. Je suis né vraiment de ta lèvre, ma vie est à partir de toi. Suffit-il donc que tu paraisses de l'air, que te fait rattachant tes cheveux, ce geste touchant que je renaisse et reconnaisse. Un monde habité par le chant, Elsa, mon amour, ma jeunesse.
L'humeur vagabonde sur France Inter.
Il ne faut pas cacher sous un mouchoir sa face. Quoi ? Toujours ce serait la guerre, la querelle, des manières de roi et des fronts prosternés. Et l'enfant de la femme inutilement né, les blés déchiquetés toujours des sauterelles.
Quoi ? Les bagnes toujours et la chair sous la roue, le massacre toujours justifié d'idoles. Au cadavre jeté ce manteau de parole, le bâillon pour la bouche et pour la main le clou.
Un jour, pourtant, un jour viendra couleur d'orange, un jour de palme, un jour de feuillages au front.
Un jour d'épaules nues où les gens s'aimeront, un jour comme un oiseau sur la plus haute branche.
Et le plus simplement du monde, il y aura la jeunesse d'aimer et les yeux des pères venges, des parfums plus profonds et des aubes plus blanches.
Et le tendre infini dont m'entourent tes bras.
Tiré du fou d'Elsa, voilà, c'est là d'où vient le titre du spectacle, Il y aura la jeunesse d'aimer. Est-ce que pour vous, Didier Besas, Louis Aragon est vraiment le plus grand poète du XXe siècle ?
Enfin, moi, personnellement, je ne suis pas loin de le penser. Je crois qu'il y a eu Victor Hugo et qu'il y a ensuite Louis Aragon. Cette manière de manier le langage, que Victor Hugo maîtrise parfaitement, enfin aussi bien dans ses poèmes que dans sa prose, il me semble qu'il n'y a que chez Aragon, dans notre siècle, qu'on le ressent. Quoi.
Mais c'est une écriture très classique aussi. D'ailleurs, la preuve, c'est que beaucoup de compositeurs de musique ont mis de la musique sur les vers d'Aragon, parce que, en fait, ce sont des vers que les enfants peuvent apprendre à l'école, qui nous restent dans la tête. Il y a une scansion. C'est pas du tout de la poésie moderne, c'est de la poésie classique, au fond.
Voilà, c'est vrai. Et il faut être reconnaissant à Léo Ferré, par exemple, qu'on vient d'entendre, d'avoir pris certains poèmes, comme Jean Ferrat l'a fait d'ailleurs. Et ce que je remarque, c'est que le timbre de voix de ces deux chanteurs, qui est d'une douceur particulière, presque une douceur de crooner, va très très bien à l'image poétique qu'Aragon fabrique au fur et à mesure de ses poèmes. Et ça, c'est très touchant, je trouve.
Alors, ce spectacle aurait pu être un collage de poèmes et les gens auraient été ravis, mais en fait, il est beaucoup plus que ça. Bon, il est plus surprenant et surtout, il y a toute cette partie des lettres échangées entre l'homme et la femme, entre Aragon et Elsa Triolet. Et là, ce sont des lettres, vous le disiez tout à l'heure, Didier Besas, qui racontent beaucoup de choses sur le couple. Et notamment, on n'imagine pas Louis Aragon s'excusant auprès d'Elsa de la vie assez difficile qu'il lui fait vivre.
Écoute, je me moque bien de ce travail de maniaque, ce métier. Ma fureur de lire, le grand jeu de mots qui aura été ma vie. Écoute, je te dis écoute parce que je sais que tu ne m'entends, tu ne m'entendras pas jamais. C'est vrai, tout est vrai, tout ce que tu me reproches. J'aimerais que tu saches que pour ma maladresse, mon égoïsme, mon inattention, mes colères, mes humeurs, mes grossièretés, cette façon de considérer ce que je fais comme le plus important, cette solitude aussi où je t'ai tant de fois laissé, pour tout cela et le reste, j'aimerais que tu saches que j'ai payé chaque jour, chaque nuit, que je paye encore, que je payerai jusqu'à mon dernier souffle. Cela ne se voit pas. C'est une affaire entre toi et moi,
C'est un peu comme de saigner dans son propre ventre. Je ne sais pas comment sont les autres. Moi, j'aurais voulu être différent. Mieux. C'est raté.
Didier Besaz, c'est assez surprenant d'entendre ces mots d'Aragon.
Oui, parce que c'est vraiment... on ne peut pas imaginer davantage d'excuses et de culpabilité vis-à-vis d'Elsa que celle qu'exprime Aragon dans ce texte. Mais en même temps, là où c'est étrange, c'est qu'il s'auto-justifie. Il dit, mais tu sais, tout ça, effectivement, ce malheur que j'ai créé en toi, je le paye tous les jours. Donc il est la victime de lui-même, en quelque sorte. Et c'est étrange, c'est drôle d'ailleurs, de voir à quel point il retourne l'excuse pour en faire... une autre excuse à lui-même.
Mais au fond, ça nous rapproche de cette phrase qu'on entendait au début, quand il disait quand les journalistes l'interrogeaient sur son couple, la façon de dire je ne suis qu'une ombre au pied d'Elsa. Au fond, c'est tellement exagéré que ça enlève toute vérité à ce qu'il dit. Et on a l'impression que c'est son mode de fonctionnement avec Elsa.
Oui, parce que il est toujours tenté de statuer sa compagne. Or, elle résiste, elle, à cette statuification, cette chosification.
C'est une femme de chair et de sang. Ouais.
Voilà. Et ça aussi, c'est très moderne. Hein, pour une femme. Mais lui continue. Alors il a à la fois avec elle des rapports empiriques qui apparaissent dans certains textes, et puis il a en même temps un rapport presque mythique, quoi, mythologique à elle.
Mais au fond, ces rapports qu'il mythifie, c'est aussi pour construire sa propre statue vis-à-vis de la postérité.
Oui, oui, ça, je suis entièrement
Elsa
d'accord avec vous.
Elsa lui sert à bâtir sa légende.
Voilà, exactement. C'est une légende. Il y a Héloïse et Abélard, et puis il y a Louis et Elsa, légende amoureuse, en quelque sorte.
Alors, tout à l'heure, on entendait le public, Didier Besaz, qui riait beaucoup lorsque vous interprétiez tous les deux, Ariane Ascaride et vous, ce texte des bons voisins. Et puis, au fur et à mesure que le spectacle approche de la fin, la tonalité devient plus sombre, plus triste, et notamment lorsque vous donnez la lecture, on va entendre la voix d'Ariane Ascaride, cette lettre qui est parue après la mort d'Elsa, qui est une lettre écrite à Aragon, qui est assez terrible.
Il n'est pas facile de te parler. Tu sembles oublier que nous vivons l'épilogue de notre vie, qu'ensuite... il n'y aura plus rien à dire, et que l'index lui-même, d'autres le liront, pas nous. Je te reproche de vivre depuis 35 ans comme si tu avais à courir pour éteindre un feu. Et dans ta course, il ne faut surtout pas te déranger, ni te devancer, ni t'emboîter le pas. Il ne faut surtout pas s'aviser de faire quoi que ce soit avec toi, ensemble. Cette dernière entreprise est bien ce que j'ai vécu de plus affreusement triste. Tu es là, tremblé devant mes initiatives. Jamais tu ne discutes. Tu ne fais que crier. Ou tu prends sur toi. Le plaisir normal de faire quelque chose ensemble, tu ne le connais pas. Un mot anodin à ce sujet et tu te mets à m'expliquer la montagne de choses que tu as à faire. Pourtant, il serait peut-être aussi urgent de parfois nous rencontrer. Il nous reste extrêmement peu de temps et tu le sais mieux que quiconque. J'étouffe de toutes les choses pas dites sans importance, mais qui auraient rendu la vie simple, sans interdit. Avoir constamment à tourner la langue 7 fois avant d'oser dire quelque chose de peur de provoquer un cyclone. Pourquoi je te le dis maintenant? Pour rien. Comme on crie. Bien que cela ne soulage pas.
Alors, vous le disiez tout à l'heure, Didier Besaz, Elsa est morte en 1970, donc Aragon a vécu bien longtemps après elle. Et ce qui est surprenant, c'est qu'après avoir bâti au fil de ses poèmes, de ses écrits et de ses paroles publiques, la légende de ce couple magnifique, après la mort d'Elsa, tout d'un coup, Aragon vit une autre vie.
Oui.
Il devient complètement différent et il ne reprend pas sa vie d'avant Elsa, il en fait une autre, un dandy que l'on voit avec des jeunes gens traîner dans les boîtes de nuit. C'est très très surprenant, comme si le départ d'Elsa l'avait rendu à ce qu'il disait avant, cette vie un peu fracassée. On sait qu'il avait tenté de se suicider par un chagrin d'amour pour Nancy Cunard. Comme si après Elsa, d'une certaine manière, Aragon recommencer à chercher qui il était.
Oui, je suis entièrement d'accord avec vous. Effectivement, c'est une troisième vie. Alors, elle est à la fois extrêmement publique et démonstrative. On sait qu'il se promenait, effectivement, entouré de jeunes gens avec un masque blanc sur le visage. Enfin bon, vous vous rendez compte, déambuler dans les rues avec un masque blanc sur le visage, une grande cape. Voilà, donc il se met en spectacle. Et effectivement, ça n'a plus rien à voir avec ce qu'il a vécu avec Elsa. Rien du tout. C'est comme si, non pas il reprenait sa vie d'avant, non, vous avez raison, c'est pas ça du tout. C'est comme s'il cherchait à inventer une nouvelle liberté hors d'Elsa, puisqu'elle a disparu. Et en même temps, il souffre énormément de sa disparition.
Et oui, voilà, le mystère des couples, ce n'est pas un mystère que l'on percera même après votre spectacle. Donc je rappelle quand même que ce très beau « Il y aura la jeunesse d'aimer », donc ces textes croisés de Louis Aragon et d'Elsa Triolet, c'est une lecture-spectacle qui a repris au Lucernaire depuis le 16 octobre et qui se poursuit jusqu'au 24 novembre. Et vous, Didier Besaz, j'imagine qu'il y a d'autres choses en cours, d'autres spectacles à venir?
Oui, il y a plusieurs projets. Il y a un projet qui est déjà créé, qui n'est pas un projet de moi, mais un projet que je parraine et que je coproduis, qui est l'adaptation d'un roman de Valérie Zenati, Jacob Jacob, que mon assistante met en scène, enfin adapté, mis en scène. Et ce projet
c'est Dicia Loubatière, donc.
Et c'est Dicia Loubatière qui a adapté et mis en scène le texte de Valérie Zenati. Il a été créé déjà depuis un moment. Il a été joué en Avignon pendant un mois avec un énorme succès. Et vous pensez bien que je suis à la fois, très heureux parce que la qualité du spectacle est évidente et qu'en même temps, je suis très fier. Voilà. Et puis, il y a le projet que je dois mettre en œuvre au mois de décembre prochain avec Pierre Arditi qui est le dialogue de Diderot, le neveu de Rabelais.
Quel bonheur encore nous faire entendre de beaux textes. Merci à vous, Didier Besaz.
Merci, Catherine.
Et bonne route. Nous nous retrouverons la semaine prochaine aux environs de 19h20. Et bien sûr, après les informations de 20h, vous avez rendez-vous avec Xavier Le Herpeur pour une heure en série. Très bonne soirée à l'écoute de France Inter.